Ok. Merci. En fait, on fait une petite interview. Ok, est-ce que vous avez déjà entendu une interview OIA? Vous avez déjà fait des études bibliques OIA, normalement, si vous êtes au début. Est-ce que vous avez déjà entendu des interviews OIA?
Non.
Eh bien, ce matin, de cet après-midi, sous vos yeux ébahis, la première interview OIA de toute votre vie, que je vais tester sur Pierre Sauvane. OIA, observation. Après, merci Mario, il y en a une qui suit, c'est super. Observation, on pose des questions très simples, comme par exemple...
Où est Jésus?
Par exemple, d'où viens-tu, Pierre-Sauvane?
Je sais pas, je viens de Metz, un peu, mais surtout je viens de Paris, pour de vrai.
Où es-tu né?
Je suis né à Paris, dans le 15e arrondissement.
Très bien. Et que fais-tu dans la vie? Quoi? Que fais-tu dans la vie?
Je suis étudiant en théologie et stagiaire avec le GBU. Sous la supervision de, du CIR de la région Est, Paul King.
Yeah! Ok, observation, interprétation. Pourquoi fais-tu des études de théologie? C'est bien beau de faire des études de théologie, mais pourquoi?
Pour étudier la théologie.
Ouais. Et dans quel but fais-tu des études de théologie?
Donc c'est pour me former, pour mieux connaître la Bible, pour mieux comprendre ce que d'autres ont pensé avant nous et qui font partie aussi de l'Église, qui ont contribué à une meilleure compréhension de la Bible, justement. Donc, tout le but, c'est de comprendre mieux la Bible pour mieux l'expliquer, pour mieux l'appliquer à soi-même et pour mieux l'expliquer aux autres.
Très bien. Et pourquoi es-tu à la journée supplémentaire du congrès?
Parce qu'on me l'a demandé. Et parce que, ce qu'on m'a demandé, c'est d'intervenir sur un sujet. Alors, on m'a d'abord annoncé la croix, assez simplement. Et puis, on m'a précisé la mort de la mort. Donc, j'ai dû essayer de faire la connexion entre le thème la croix et la mort de la mort. Et j'espère que je vais y arriver.
Donc, comment est-ce que tu vas faire concrètement? Là, on est passé à l'application, d'accord? Qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment? Comment vas-tu faire concrètement pour être
Alors, concrètement, j'ai pris un chapitre. Ou 54 versets d'un chapitre, et on va le couper en trois parties, ce chapitre, et on va étudier les différentes parties de ce chapitre. C'est le chapitre 27 de Matthieu, et on va faire ça en trois temps de 40 minutes.
Et dernière question, application, comment faire concrètement pour retenir ce que tu vas nous dire, mais en plus pour en profiter pleinement? Comment faire?
Alors vous pouvez prier pour que Dieu vous rende attentif et me rende intéressant. Et puis vous pouvez utiliser les carnets qui vous ont été distribués. Il y a un plan qui vous aidera à mieux suivre ce qui se passe. Et si vous le voulez, vous pouvez même prendre des notes. Ça peut servir, ça peut aider à fixer l'attention, même si vous ne touchez plus jamais après à ce carnet. Ou bien vous pouvez jeter à nouveau un coup d'œil plus tard si vous avez besoin.
Ok, est-ce que tu avais prévu de prier ou tu veux que je prie maintenant pour toi?
Je veux bien que tu pries.
Ok, on va prier ensemble avant de commencer, ok? Prions. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment pour le privilège de se retrouver ensemble. Merci pour la beauté de ce lieu, la beauté de ta création. Et nous prions que tu nous aides à fixer nos regards sur ton Fils, le Seigneur Jésus, et notamment sur ce qu'il a fait à la croix. S'il te plaît, ouvre nos yeux pour contempler avec émerveillement cette œuvre extraordinaire. Et nous prions que tu sois tout particulièrement avec Pierre Sauvane, pour que tu l'aides à s'exprimer clairement. Nous prions également que ton Saint-Esprit s'empare de ta parole pour l'appliquer profondément, puissamment à nos cœurs. S'il te plaît, nous prions que tu changes, que tu transformes nos vies, que nos vies soient à ta gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.
Amen. Alors les trois interventions que je vais faire, j'ai choisi de leur donner un titre. Vous trouvez dans les plans le nom de ces titres. Alors les trois titres, c'est « Il a souffert sous Ponce Pilate »,« Il a été crucifié », »,« Il est mort ». Et à proprement parler, nous traiterons la question « La mort de la mort » dans la troisième intervention. Mais avant de savoir d'arriver à ce moment-là, il faut voir un petit peu ce qui s'est passé avant, c'est remettre le texte dans son contexte immédiat. Alors c'est exactement ce qu'enseigne une très ancienne confession de foi chrétienne à propos de Jésus-Christ. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. C'est avec une concision, à mon avis, impressionnante et aussi sublime que ce texte qu'on a appelé le symbole des apôtres, eh bien, c'est avec cette concision qui est résumé en quelques mots les trois passages que j'aimerais parcourir avec vous. Maintenant, il a souffert sous Ponce Pilate, ce soir, il a été crucifié, et puis demain soir, demain après-midi, il est mort. Nous lirons ensemble, durant ces trois séances, les 54 premiers versets du chapitre 27 de l'Évangile selon Matthieu. Et donc, ce que je vous propose, c'est de prendre vos Bibles tout de suite, et nous allons commencer par lire le premier texte, les 26 premiers versets, du chapitre 27 de l'Évangile selon Matthieu, où nous voyons que Jésus-Christ, notre Seigneur, a souffert sous Ponce Pilate. Matthieu 27, versets 1 à 26. Et je lirai dans la Nouvelle Bible Second. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Voyant qu'il avait été condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe ? C'est ton affaire !» Judas jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloigna pour aller se pendre. Les grands prêtres ramassèrent les pièces et dirent « Il n'est pas permis de les remettre dans le corbana, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix attribué par les Israélites à celui qu'ils ont apprécié, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur lui demanda « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui le dis. » Mais il ne répondit pas aux accusations des grands prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tout ce dont il t'accuse ?» Mais il ne lui répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier pour la foule, celui qu'elle voulait. Ils avaient alors un prisonnier fameux, appelé Jésus Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire disparaître Jésus. Le gouverneur leur demanda « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferais-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Il reprit « Mais quel mal a-t-il donc fait ?» Mais ils crièrent de plus belle « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que cela ne servait à rien, mais que l'agitation augmentait, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je suis innocent du sang de cet homme. C'est votre affaire. » Tout le peuple répondit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Ici s'arrête notre lecture de la parole de Dieu, qui nous bénisse abondamment par elle. Alors vous connaissez peut-être cette ligne, je vais la dire en anglais. « It was the best of times, it was the worst of times. » C'était la meilleure des époques, c'était la pire des époques. Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Ça vient d'un petit roman, du deuxième roman historique d'un certain Charles Dickens, The Tales of Two Cities, le comte de Deville, le comte C-O-N-T-E, des Deville, les Deville c'est Paris et c'est Londres, et il a été écrit en 1859, et l'action se passe à Paris et à Londres, donc au moment de la Révolution française. Et donc c'était ça, pour Dickens, la meilleure des époques et la pire des époques. C'était la meilleure des époques, c'était la pire des époques. Alors à mon avis, il est possible d'inverser cette phrase pour résumer ce qui se passe dans notre texte. C'était la pire des époques, et pourtant, c'était la meilleure des époques. C'était la pire des époques. Pourquoi ? Parce que les hommes avaient en face d'eux Dieu fait homme. Mais au lieu de l'adorer et de le servir, ils l'ont haï jusqu'à le faire mourir. Jamais les hommes n'ont pu manifester plus leur folie qu'à cette époque. C'était la pire des époques, vraiment. Et pourtant, c'était aussi la meilleure des époques. Parce qu'en subissant la pire injustice, par sa mort même, Jésus-Christ, notre Seigneur, allait accomplir le salut de tous ceux qui croiraient en lui. C'était la pire des époques. C'était la meilleure des époques. Car c'est dans la croix de Jésus-Christ, que se sont rencontrés, dans toute l'histoire de l'humanité, le pire et le meilleur. Et l'évangéliste Matthieu, dans notre passage, veut nous montrer précisément cela dans tout le chapitre 27, et en particulier dans les versets qu'on va voir maintenant. Alors, en suivant la progression du texte, ce que je vous propose pour cet après-midi, c'est de considérer premièrement la croix comme une condamnation légale, comme une condamnation pénale. Ensuite, de voir deuxièmement la croix comme condamnation injuste de l'innocent, d'un innocent. Et troisièmement, de voir la croix comme un sacrifice volontaire. Ces trois aspects de la croix qu'on va voir dans les trois premières parties de notre texte. Et ce que je vous propose de voir ensuite, c'est que l'évangéliste enchevêtre ensuite ces trois fils, ces trois brins, et il les tresse ensemble pour nous présenter, et il y a un nouvel aspect de la croix qui surgit à ce moment-là, quatrièmement, la croix comme substitution pénale. Alors, c'est du vocabulaire un peu technique, je l'expliquerai tout à l'heure, j'espère que ça ne va pas vous déranger pour l'instant. Donc, quatre aspects de la croix, ils sont marqués dans vos carnets, et c'est là ce que nous verrons durant cette séance. Premièrement, donc, la croix comme condamnation légale, comme condamnation pénale. C'est ce que nous trouvons dans les versets 1 et 2, que je vous invite à lire à nouveau. Et voilà ce qu'on lit. « Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. » Alors, on n'a pas eu le temps de lire tout l'évangile de Matthieu avant de commencer à lire ce passage, et donc je vais devoir faire un résumé de l'épisode précédent. Le chapitre 26, qui précède immédiatement notre passage, rapporte à partir du verset 20 une très longue soirée, la soirée de célébration de la Pâque, que Jésus a passée avec ses disciples, une soirée extrêmement riche en rebondissements, on pourrait en faire presque un film, puisqu'il annonce la trahison de Judas d'abord, ensuite Jésus institue le repas de la scène, puis il part en excursion avec ses disciples aux environs du Mont des Oliviers, dans un endroit appelé Gethsémani ou Gethsémané selon les traductions. Ensuite, il annonce le reniement de Pierre, puis Jésus décide de prendre un temps à part spécial pour prier, il se met à part de ses disciples. Là, il éprouve de la tristesse et de l'angoisse. Et puis, il y a des soldats qui viennent, Jésus est arrêté avec des épées et même des bâtons, comme si c'était un bandit. Et puis toujours dans cette même et très longue nuit, il est amené devant le Sanhédrin et il comparaît devant lui. Le Sanhédrin, c'était une sorte de grand conseil des chefs religieux juifs, un tribunal religieux qui était présidé par le grand prêtre. Et ce grand prêtre, il faut le savoir, à cette époque, était nommé par le pouvoir romain. Normalement, les réunions de ce grand conseil devaient se faire de jour pour assurer un procès équitable. Mais là, dans le cas de Jésus, ça s'est passé de nuit. Le procès de Jésus se fait dans le secret de la nuit, dans l'urgence, et on fait appel à des faux témoins pour l'accuser. Et on arrive finalement à le condamner, alors sans motif vraiment valable, simplement avec des faux témoins qui accusent Jésus de propos prétendument blasphématoires. Et la sentence que le Sanhédrin prononce est claire, au verset 66, elle est on ne peut plus claire, verset 66, ils répondirent, il est passible de mort. Et c'est pourquoi Matthieu commence notre chapitre, une nouvelle section de son évangile, ainsi en disant « Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. » Alors, ce qu'on voit, c'est que la nuit précédente, au chapitre 26, le Sanhédrin avait déjà pris sa décision, sauf qu'il avait pris illégalement, irrégulièrement, contre la procédure, ils avaient pris leur décision dans le secret de la nuit. Mais au petit matin, ils veulent se réunir pour acter, pour prendre officiellement la décision. Alors, notre texte dit que tous les grands prêtres se réunirent, ce qui est un peu bizarre, parce qu'on a l'idée qu'il n'y avait qu'un seul grand prêtre, puisque le grand prêtre, c'était un peu le chef de tous les prêtres. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les Romains nommaient, et puis ensuite, demandaient à certains grands prêtres d'arrêter, parce que ça ne leur plaisait pas. Et donc, quand on disait tous les grands prêtres, c'était le grand prêtre en fonction, plus tous les prédécesseurs qui avaient été déposés. Donc, en l'occurrence, c'est Caïphe, le grand prêtre en fonction, et puis ses prédécesseurs, en général, c'était des gens de sa famille. Et donc, il y avait un autre grand prêtre qui était assez connu, qui s'appelait Anne. Souvent, on l'écrit avec un H pour distinguer du prénom féminin. Et puis, il y avait aussi les anciens du peuple qui étaient réunis dans ce Sanhédrin, c'est-à-dire les notables qui siégeaient avec les grands prêtres. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se réunissent ? Pour donner à la décision qu'ils ont déjà prise la nuit, illégalement, une apparence de légalité. En quelque sorte, ils ratifient officiellement la décision qu'ils ont prise secrètement quelques heures plus tôt au milieu de la nuit. Le problème, s'ils avaient voulu donner une petite peine à Jésus, il n'y aurait pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ils avaient décidé qu'il était passible de mort. Et sous l'occupation romaine, c'était tout simplement pas permis à ce tribunal, à ce Sanhédrin, de faire mettre à mort quelqu'un. C'était réservé au législateur, au pouvoir, c'était réservé au pouvoir romain. Voici donc ce qu'ils font. Ils lient Jésus comme un brigand, comme s'il était susceptible de se débattre et puis de tenter de s'évader. Et puis, ils l'emmènent comme ça, lié au gouverneur romain, un certain Pilate, qui est le seul dans le pays à pouvoir faire mettre Jésus à mort. Et donc, l'évangéliste Matthieu, en décrivant ainsi le début de la journée de la croix, de la crucifixion de Jésus, il nous donne un premier élément pour caractériser la croix. Il veut nous présenter la croix comme une décision légale. Il nous présente la croix comme une condamnation pénale. Bien sûr, ça n'empêche pas que ce soit une décision injuste, inique. Mais ce que nous montre ici l'évangile, c'est l'aspect juridique de la croix. Et c'est le premier élément qu'il faut retenir. Jésus n'a pas été exécuté sommairement, comme Étienne, plus tard, dans Acte 7, sera exécuté sans jugement. Là, ce n'est pas le cas de Jésus. Il est exécuté avec un jugement. Alors, il y a des irrégularités, il y a des problèmes, mais c'est légalement qu'il est condamné. Jésus est condamné pénalement. Et donc, ça nous montre, premièrement, que la croix est une condamnation pénale. Et on verra tout à l'heure pourquoi c'est si important. Mais je vous propose maintenant d'avancer dans notre lecture du texte et de voir, deuxièmement, la croix comme condamnation injuste d'un innocent. C'est ce que nous trouvons dans les versets 3 à 10, que nous allons relire dans un instant, ou qu'on va survoler dans un instant. Alors, juste pour vous dire mon point de vue ici, à mon avis, Matthieu ouvre ici une sorte de parenthèse qui l'amène à ne pas respecter strictement l'ordre chronologique dans sa présentation. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est à cause de ce qu'on voit à la fin de cette section. Il me semble clair que les chefs des Juifs n'ont pas acheté le champ du sang du verset 8, précisément entre le moment où Judas a livré Jésus, à la fin du chapitre 26, ils ne l'ont pas fait entre le moment où les chefs des Juifs ont mené Jésus à Pilate, au verset 2, et le moment où Jésus comparaît ensuite devant Pilate, au verset 11. Vous voyez, au verset 11, on va reprendre l'action. Là, entre verset 3 et 12, il y a une sorte... c'est pas un flashback, c'est l'inverse. On va un peu en avant, on va voir ce qui va se passer plus tard, et notamment jusqu'au moment où ils vont acheter un champ. Et donc, ce qu'on peut se demander, c'est, si ça se passe plus tard, pourquoi est-ce que Matthieu le place à ce moment-là? À quoi ça sert de le mettre ici? Est-ce qu'il ne pourrait pas le mettre après que Jésus a été crucifié, si ça s'est passé après la crucifixion? C'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr que Jésus soit resté dans les parages pendant le procès de Jésus. Et c'est sans doute plus tard, et à sa grande surprise, qu'il a dû apprendre que Jésus, finalement, avait été condamné à la crucifixion. Parce qu'en fait, ce n'était pas du tout gagné d'avance. Le motif qu'avaient les Juifs pour faire condamner Jésus à mort était bidon. Ce n'était pas prévisible, vraiment, à vue humaine. Il avait certes trahi son maître pour de l'argent, mais franchement, même s'il savait que les grands prêtres et les anciens en voulaient à mort à Jésus, ça ne voulait pas dire qu'ils allaient réussir vraiment à le faire mettre à mort. Mais tout d'un coup, il apprend la sentence. Jésus est condamné à la crucifixion. D'où sa réaction qui nous est rapportée à partir du verset 3. Voyant que Jésus avait été condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, c'est ton affaire ». Judas jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloigna pour aller se pendre. Les grands prêtres ramassèrent les pièces et dirent « Il n'est pas permis de les remettre dans le corbana, puisque c'est le prix du sang ». Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix attribué par les Israélites à celui qu'ils ont apprécié, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Alors, si mon point de vue, mon hypothèse est bonne, de proposer que cet épisode s'est en fait passé après la crucifixion, il faut se demander pourquoi l'évangéliste le raconte à ce moment-là. Ce que je crois, c'est que l'intention de l'évangéliste, dans le chapitre 27, à partir du verset 1 et 2, où il introduit la croix comme condamnation pénale, eh bien, c'est de refaire le procès de Jésus. Il veut un peu redonner les éléments. Et il veut que son public puisse aussi décider, est-ce que Jésus est coupable ou pas ? Et le verdict que l'on retrouve tout au long du chapitre, mais particulièrement dans les versets 3 à 10, qui lance un peu ce nouveau procès de Jésus, on refait le procès de Jésus, eh bien, le verdict qu'on va trouver à chaque fois, c'est non coupable, non coupable, non coupable. Et l'épisode du remords de Jésus, c'est seulement le premier témoignage, et en quelque sorte le plus fort, et à mon avis, c'est pour ça qu'il est ramené en première position, c'est le premier témoignage que Matthieu apporte pour prouver l'innocence de Jésus. Car voici ce que dit Judas au verset 4. « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Jésus n'est pas coupable, il est innocent. Et vous savez, Judas était celui qui était le mieux placé pour en parler. Parce qu'il avait vécu avec Jésus pendant 3 ans. Et s'il avait pu trouver une raison d'accuser Jésus, je crois qu'il l'aurait volontiers fait, ne serait-ce que pour se déculpabiliser. Il dit « Bon, c'est vrai, je l'ai trahi, je l'ai livré, mais quand même, il n'était pas parfait non plus. » Mais non, j'ai livré le sang innocent. Il ne trouve rien pour accuser Jésus. Son verdict, c'est que cet homme est innocent. Et regardez la réaction des grands prêtres. Les grands prêtres n'en ont que faire. Ils disent à Judas que c'est son problème, pas le leur. Et cette remarque, qui est complètement dépourvue de compassion, ben ça, ils font des très mauvais pasteurs, c'en est trop pour Judas, qui cherchait sans doute à se racheter. Il veut rendre l'argent, au moins il s'en débarrasse. Et la réponse dure des chefs des Juifs l'amène au désespoir et au suicide. L'attitude de Judas et son geste fatal témoignent que la croix est bien la condamnation, légale certes, mais la condamnation d'un innocent. La condamnation injuste d'un innocent. Alors l'évangéliste Matthieu s'attarde un peu sur la destinée de ces 30 pièces d'argent qui a été, on voit la trajectoire, ça a d'abord été pris du trésor du temple, donc le corbana c'était le trésor du temple, ça a été d'abord pris du trésor pour acheter la trahison de Judas, donc cet argent n'était pas impur pour acheter une trahison, mais ensuite il a été rendu par Judas parce qu'on voit qu'il a été jeté dans le sanctuaire. Alors le sanctuaire dans le temple, c'était l'équivalent du lieu saint, on le verra tout à l'heure sans doute dans le premier survol, c'est-à-dire c'était l'endroit où seuls les prêtres pouvaient récupérer. Donc en jetant l'argent, il est sûr il fait un retour à l'envoyeur, ça revient chez les prêtres. Mais ceux-ci n'ont pas réussi à le remettre dans le corbana, c'est-à-dire dans le trésor du temple. Pourquoi ? Pour des raisons de pureté cérémonielle, qui sont liées à une certaine lecture qu'ils avaient de la loi de Moïse. Et donc, au lieu de remettre l'argent dans le temple, ils vont utiliser cet argent qu'ils considèrent comme impur pour acheter le champ d'un potier. C'était sans doute aussi un champ qui était considéré comme impur à cause du travail qui s'y faisait. Et puis, ils l'achètent pour enterrer des étrangers qui eux-mêmes étaient considérés aussi comme impur. Donc avec de l'argent impur, on achète un champ impur pour y ranger des cadavres de personnes impures. Et en plus, les cadavres aussi, c'était impur. Donc tout ça, c'est très impur. Et donc, ce champ du potier est devenu le champ du sang, parce qu'il a été acheté, nous dit Matthieu, avec le prix du sang. Et l'évangéliste conclut cette sorte de parenthèse en citant un texte de l'Ancien Testament. Et il le fait un peu à la même manière dont il a utilisé l'Ancien Testament tout au long de son évangile, et particulièrement au début de l'évangile. Et la manière dont il utilise les citations, si vous avez un peu étudié l'évangile de Matthieu, notamment au début, parfois vous avez pu être un peu interloqué par la manière dont il cite l'Ancien Testament. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne dit pas « ça c'est une prédiction qui est accomplie dans la vie de Jésus », mais il essaye de montrer que Jésus, dans sa vie même, récapitule l'histoire d'Israël. Et donc ici, il adapte un passage d'un prophète, le prophète Zacharie, et ce prophète avait rapporté que le peuple avait rejeté Dieu et qu'il l'avait évalué à 30 pièces d'argent. Alors, 30 pièces d'argent, ça ne nous dit pas trop, c'est juste que c'était le prix d'un esclave. Et donc, ils avaient considéré Dieu comme leur esclave, au lieu de l'accepter comme leur maître, ils en avaient fait un esclave dont ils faisaient peu de cas, et simplement ils se tournaient vers lui quand ils en avaient besoin, comme leur serviteur. Et Jésus est évalué à ce même prix, 30 pièces d'argent, celui d'un serviteur. Alors, j'en suis pas sûr, mais je vous le propose, il y a peut-être à cet endroit-là, dans cette citation, une très discrète allusion au fait que Jésus est Dieu, puisqu'il est évalué au même prix dérisoire que Dieu. Et une citation qui s'appliquait à Dieu est appliquée ici, à Jésus. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Jésus-Christ, se rejoue une scène tout à fait analogue à celle que Zacharie avait décrite. Jésus, comme l'Éternel, à l'époque des prophètes, est rejeté par son peuple, trahi par lui. Et dans la vie de Jésus, ça aboutit à une condamnation injuste, folle, insensée. La croix, c'est donc la condamnation injuste d'un juste. C'est la condamnation injuste d'un juste. La condamnation d'un innocent. C'est là le témoignage de Judas lui-même à propos de Matthieu. C'est le témoignage aussi de Matthieu en tant que narrateur lorsqu'il nous présente la trahison insensée et terrible de Judas comme un rappel, comme une réminiscence de la rébellion insensée et terrible des Israélites envers Dieu à l'époque des prophètes. Il met en parallèle la rébellion du peuple dans l'Ancien Testament avec la trahison de Judas dans le Nouveau Testament. Et donc, en plus de nous présenter dans les deux premiers versets la croix comme une condamnation pénale, l'évangéliste Matthieu nous présente la croix, deuxièmement, comme condamnation injuste d'un innocent. Mais ce n'est pas tout, car elle nous présente, troisièmement, la croix comme un sacrifice volontaire. Et c'est ce que nous trouvons dans les versets 11 à 14. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur lui demanda « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus lui répondit « C'est toi qui le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des grands prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tout ce dont il t'accuse ?» Mais il ne lui répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Donc là, la parenthèse est fermée, et l'évangéliste reprend le procès de Jésus là où il l'avait laissé au verset 2, chez Pilate. Les chefs des Juifs ont emmené Jésus au gouverneur pour que celui le juge et pour qu'il le condamne à mort. Et c'est pourquoi le verset 11 nous dit que Jésus comparut devant le gouverneur. On sait que les chefs des Juifs voulaient condamner Jésus à mort pour blasphème. C'était ça le motif d'accusation qu'ils avaient trouvé. C'est parce qu'il a blasphémé qu'on doit le mettre à mort. Mais bien sûr, ça ne constituait pas pour les Romains un motif valable pour mettre quelqu'un à mort. C'est comme si aujourd'hui, vous ameniez quelqu'un à la police et vous disiez « il a commis un blasphème, il a insulté Jésus ». Le policier va vous dire « je ne peux pas recevoir cette plainte ». Pilate, il ne peut pas recevoir la plainte, Jésus est un blasphémateur. Alors, ce qu'ils font pour faire pression sur Pilate, c'est avancer un autre motif de condamnation, beaucoup plus sérieux pour les Romains. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que celui qui lui livre, Jésus, en fait, c'est un rival de l'empereur. C'est un prétendant à la royauté, c'est quelqu'un qui veut se débarrasser des Romains. Quelqu'un qui se présente comme le roi des Juifs. Et c'est seulement si on voit qu'il y a cette accusation en arrière-plan dont Matthieu ne nous parle pas directement, qu'on comprend pourquoi Pilate interroge Jésus ainsi au verset 11. Le gouverneur lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» toi. Si on n'a pas ces accusations des Juifs en arrière-plan, on a du mal à comprendre pourquoi tout d'un coup, Pilate demande à Jésus, au fait, est-ce que tu es le roi des Juifs? Non, c'est l'accusation qui a été donnée par les Juifs au gouverneur. C'est parce que les chefs des Juifs l'avaient accusé d'être l'instigateur d'une rébellion contre Rome qu'il est devant Pilate. En tout cas, c'est la raison officielle qu'il donne à Pilate. Et là, à la question de Pilate, Jésus répond d'une manière assez difficile à traduire en français. Dans la version de la Bible que je lis, la Nouvelle Bible Second, il est écrit que Jésus lui répondit « C'est toi qui le dis ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une assez bonne traduction mot à mot, parce que dans le mot grec, quand on traduit, il y a écrit « C'est toi qui le dis ». Donc, on peut traduire « C'est toi qui le dis ». Sauf qu'en français, lorsqu'on dit « C'est toi qui le dis », on dit plutôt du genre « Ouais, c'est ça, c'est toi qui le dis hein. ». On le dit souvent avec un ton de défi, qui veut dire « C'est ta vision des choses, mais c'est pas la mienne, c'est toi qui le dis ». Alors, est-ce que c'est ça que Jésus est en train de faire ici? Ben en fait, non. Et du coup, c'est une traduction qui induit un peu en erreur. En disant « c'est toi qui le dis », ce que fait Jésus, c'est il fait deux choses. D'un côté, il valide la proposition qui est énoncée, et donc il dit que sur le fond, il est d'accord, c'est vrai, je suis le roi des Juifs. Mais en même temps, il se distance de la manière dont c'est dit, ou de la manière dont on peut le comprendre. Il se distance de mauvaises compréhensions possibles. Autrement dit, la réponse, et peut-être ce serait une meilleure traduction, la réponse, même si ce serait une réponse un peu longue, la réponse de Jésus, c'est du type « Je suis bien le roi des Juifs, mais pas dans le sens de ce que l'on entend habituellement par un roi. » Ça raconte un peu la traduction. Hein. Encore, « Je suis bien roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Je pense que ça n'enregistre plus. Hein. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Ça, il le dit d'ailleurs explicitement dans l'évangile de Jean. Je suis bien roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Ma royauté est différente de celle des autres rois. Je ne suis pas un roi comme les autres. Et c'est le seul point sur lequel Jésus accepte de répondre à Pilate. Le verset 12 nous dit qu'il ne répondit pas, qu'il ne répondit rien aux accusations des grands prêtres et des anciens. La seule chose qu'il dit, c'est toi qui le dis, tu l'as dit. Et cela étonne Pilate qu'il ne se défende pas. Pourquoi est-ce qu'il ne se défend pas? Pourquoi? C'est cette question qui est en arrière-plan de la question qu'il pose à Jésus au verset 13. Il lui demande de se défendre. Tu n'entends pas tout ce dont il t'accuse? Tu ne veux pas réagir, proposer une défense pour qu'on puisse voir un peu? Et Pilate va être encore plus surpris parce que là, Jésus, il a fermé sa bouche définitivement, il ne répondra plus. C'est fini. Alors pourquoi est-ce que Jésus ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'il se tait? Pourquoi est-ce qu'il ne se défend pas? Après tout, on peut comprendre la démarche de Pilate qu'en lui demandant de parler, il est en fait simplement en train de demander à Jésus de l'aider à le délivrer. Il lui demande de simplement répondre à ses accusateurs pour qu'il puisse avoir un moyen de délivrer Jésus. C'est seulement si Jésus se défend un minimum que Pilate pourra le déclarer innocent et le libérer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ce que je crois, c'est que Pilate, dès le départ, ne croit pas du tout à la culpabilité de Jésus. Le verset 18 nous dit en effet que Pilate savait que les Juifs l'avaient livré par jalousie. Et donc, il les connaît, hein, les oseaux qui sont devant lui, et il sait très bien que c'est pas vraiment pour la justice qu'ils sont là. Hein. Ils veulent se débarrasser de Jésus, et tout ce qu'il demande à Jésus, c'est « S'il te plaît, aide-moi, dis quelque chose pour que je puisse te libérer. » Mais Jésus refuse. Il se tait. Pourquoi? Alors, je dois vous le dire, Matthieu ne nous le dit pas. Il ne donne pas les raisons de l'attitude de Jésus. En revanche, ce qu'il fait, et c'est un autre parallèle qu'on voit avec l'épisode précédent qu'on n'a pas eu le temps de lire aujourd'hui, il nous montre la constance, une constance dans l'attitude de Jésus. Jésus avait adopté exactement la même ligne de conduite au chapitre 26, au verset 62, lorsqu'il était accusé par des faux témoins. Et remarquez bien le parallèle. Le seul moment, il a parlé à un seul moment dans le Sanhédrin, le seul moment où il parla dans son procès devant le Sanhédrin, c'est lorsque le grand prêtre lui demanda s'il était le Christ, le Fils de Dieu. Même question, es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Et écoutez bien sa réponse. C'est toi qui le dis. Exactement la même réponse qu'à Pilate. Oui, je le suis, mais pas comme vous l'entendez. Je suis bel et bien le Fils de Dieu, bel et bien le roi des Juifs, bel et bien un Christ. Mais d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, à quoi l'évangéliste Matthieu veut-il nous faire arriver en choisissant de nous parler du silence de Jésus devant ses accusateurs? L'évangéliste ne cite aucun texte de l'Ancien Testament à propos du silence de Jésus. Mais à mon avis, il fait là une allusion assez marquée à un texte précis, un texte qui se trouve dans un des chants du serviteur souffrant de l'Éternel, qu'on trouve en Ésaïe 53. Et voici ce que nous lisons en effet dans ce passage, en Ésaïe 53, verset 7. « Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. » Jésus ne se défend pas des fausses accusations. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est pour les subir, ces fausses accusations, et être condamné par elles, qu'il est venu. Il sait que sa mission de serviteur de l'Éternel, c'est de souffrir l'injustice. Une injustice légale, une injustice pénale. Et donc, il ne se débat pas devant son juge. Il ne se défend pas. Il n'ouvre pas la bouche parce que c'est pour ça qu'il est venu. Semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent, il accepte son sort. Il se laisse faire. Mais Jésus, pendant ce temps-là, a pleinement conscience de ce qui est en train de se passer. Il sait qu'en se taisant, il se ferme la porte à être relâché. Il se ferme la possibilité d'être relâché. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus est en train sciemment de se sacrifier. Il est en train de se laisser volontairement condamner. Ce qui signifie que la condamnation que Jésus va subir est en fait de sa part un sacrifice. Un sacrifice volontaire. C'est comme ça que je pense qu'il faut comprendre le fait que Jésus se taise. Il veut donner aucun élément pour lequel on pourrait facilement le libérer. La croix est de la part de Jésus-Christ un sacrifice volontaire. C'est ce que nous montre le silence de Jésus devant ses accusateurs et son juge terrestre. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'attitude de Jésus n'est toujours pas complètement compréhensible. Il se sacrifie volontairement, d'accord. Il est en train de donner sa vie, ok. Mais dans quel but ? Pourquoi faire ? Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant dans la fin de notre passage, qui récapitule les trois aspects que nous avons vus jusqu'à maintenant. Et ces trois aspects s'enchevêtrent comme les trois brins d'une tresse pour nous présenter et pour faire surgir un quatrième aspect de la croix. C'est la croix comme substitution pénale. Et on va s'attarder un petit peu là-dessus. C'est ce que je vous propose de voir dans les versets 15 à 26 que nous lisons maintenant, où il y a quelque part une des meilleures illustrations possibles de ce qu'est la substitution pénale. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier pour la foule, celui qu'elle voulait. Ils avaient alors un prisonnier fameux, appelé Jésus Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire disparaître Jésus. Le gouverneur lui demanda « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Mais que ferais-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Il répondit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Mais ils crièrent de plus belle, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que cela ne servait à rien, mais que l'agitation augmentait, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, « Je suis innocent du sang de cet homme, c'est votre affaire. » Tout le peuple répondit, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir flagellé Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors cet épisode, je viens de le dire, est l'une des meilleures illustrations possibles de ce que signifie l'expression « substitution pénale ». Alors, la substitution pénale, c'est quoi ? Alors, juste dans les termes, il y a « pénal », ça montre que ça a un aspect juridique, et puis il y a « substitution ». Si vous avez joué à des jeux de foot, par exemple, et où vous jouiez avec une version anglaise, quand vous changez un joueur, il n'y a pas écrit remplaçant, il y a écrit substitution. Une substitution, c'est un remplacement. Il y a un changement d'acteur qui se passe. La substitution pénale, c'est le fait que quelqu'un se substitue légalement à un autre, qu'il le remplace légalement pour porter un châtiment qu'il n'a pas mérité pour lui-même, mais que cet autre auquel il se substitue a bien mérité de porter. Et donc, c'est ce qu'on dit plus simplement en disant que Jésus est mort pour nous. Et en étant précis, il faut dire que c'est légalement parce que c'est pour un châtiment qu'il est mort pour nous. Et c'est bien ce que Jésus fait dans ce texte. Pilate sentait bien que les accusations des chefs des Juifs contre Jésus étaient bidons. Il savait qu'ils étaient jaloux de lui, verset 18. Mais comme Jésus n'a pas vraiment été très très coopératif pour qu'il puisse le libérer tranquillement, Pilate est contraint de mettre en œuvre une autre solution. Et il faut dire, moi je trouve qu'il a été assez rusé. Il va utiliser une coutume, celle par laquelle on amnistiait un prisonnier au moment des fêtes. Et clairement, pour Pilate, le choix de la foule ne devait pas être trop difficile. D'un côté, Jésus de Nazareth, qui n'a pas l'air d'être très très dangereux, et d'ailleurs, il y a une semaine, les foules l'acclamaient en disant de belles choses de lui. Et de l'autre, un prisonnier certes fameux, mais un prisonnier sans doute connu pour ses méfaits, un activiste extrémiste, et donc si on pèse dans la balance, normalement, c'est facile, le choix est vite fait. Entre Jésus de Nazareth et Jésus Barabbas, normalement, c'est pas trop compliqué. C'est ce choix qu'il donne au verset 17 à la foule amassée aux portes du palais, qui attendait justement qu'on libère un des prisonniers. Lequel voulez-vous que je vous le relâche ? Jésus Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ? Je pense que le choix était un peu orienté. Le plan de Pilate, de mon point de vue, était assez astucieux. C'était un bon plan pour libérer quelqu'un qu'il pensait innocent. Bon, c'était pas très courageux, c'est vrai, mais c'était un bon plan pour quelqu'un qui voulait pas faire preuve de trop de courage d'un coup. Et maintenant, il était sans doute certain de l'innocence de Jésus, puisque l'épouse de Pilate elle-même lui a fait transmettre pendant ce temps-là un message lui disant que ce Jésus est juste et qu'il doit être libéré. Donc le plan doit être mis en œuvre et tout va bien se passer. Sauf que quelque chose d'imprévu a lieu. Et là, c'est le drame. C'est ce que nous rapporte le verset 20. Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire disparaître Jésus. En quelques minutes, entre le moment où ils ont connu l'intention de Pilate de faire choisir le peuple entre Jésus et Barabbas, entre ce moment-là et la demande effective que Barabbas a faite, que Pilate a faite, eh bien, ils ont eu le temps, ils ont réussi à retourner l'opinion de la foule. Cette foule qui avait pourtant acclamé quelques jours plus tôt Jésus comme fils de David. Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça ? Alors bon, déjà la foule, sans doute, elle devait être un peu d'humeur changeante. On ne sait pas trop, faut bien le dire. Mais à mon avis, ils ont dû jouer sur le sentiment romain, anti-romain, avec un discours du style « Pilate veut faire libérer Jésus de Nazareth. Il va vous proposer de le libérer. » Mais ce Jésus de Nazareth, c'est un imposteur en fait. D'ailleurs, s'il était vraiment le fils de David comme on l'a cru à un moment, le roi promis par le Seigneur, vous croyez que le gouverneur voudrait le relâcher, le gouverneur des Romains là ? Nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous délivrera de l'oppression. Mais ce n'était pas ce que Jésus est venu faire. Regardez, il pactise avec l'ennemi romain. Il pactise avec l'ennemi au lieu de nous en libérer. Demandons donc la libération de Barabbas. Lui, il est vraiment pour le départ des Romains. Et c'est dans ce but qu'il a commis, c'est vrai, il faut l'avouer, quelques petits crimes. Mais bon, rien de trop méchant, c'était contre les Romains. Lui, c'est un vrai juif. Mais ce Jésus-là, c'est un imposteur, c'est un traître, un soi-disant messie, qui ne peut ni ne veut rien faire pour nous délivrer. Exigeons de Pilate qu'il le fasse crucifier à la place de Barabbas. Alors bon, je l'admets, c'est une reconstruction, juste une hypothèse, pour expliquer le retournement d'opinion de la foule. Bon, ce qui est plus certain, c'est ce que nous trouvons au verset 21. Le gouverneur leur demanda « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Barabbas ? Et là, Pilate est estomaqué. Il ne sait plus quoi faire. Son plan est en train d'échouer, mais lamentablement. Il ne sait plus quoi dire. Et sous le choc, il fait une faute tactique en demandant alors à haute voix, mais il aurait mieux fait de se taire, hein, « Mais que ferais-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Christ ?» Et là, bam, tous répondirent qu'il soit crucifié. Là, Pilate a très très mal joué. Pilate n'en croit pas ses oreilles. Il sait au fond de lui que Jésus est innocent. Et donc, alors que ce n'est pas son rôle, instinctivement, il se fait l'avocat de Jésus à nouveau. Il se fait l'avocat de Jésus en demandant à nouveau au verset 23, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais ce n'était pas du tout son rôle. Là c'est le procureur, c'est pas l'avocat. Tout d'un coup, il devient avocat de Jésus. « Quel mal a-t-il donc fait ?» Et nous avons là un nouveau témoignage de l'innocence de Jésus. Après celui de Judas, on a le témoignage de Pilate. On a le témoignage de la femme de Pilate. C'est injuste. Il n'a rien fait. Quel mal a-t-il donc fait ? Et remarquez, il y a encore un quatrième témoignage. C'est celui de la foule. Alors c'est un témoignage, on va dire, en inverse qu'on peut voir, puisque la foule, elle n'a aucune réponse à donner à cette question. Elle ne peut pas dire « voilà le mal qu'il a fait ». Le seul mal que Jésus a commis, c'est qu'il l'a déçu de ses attentes. Il n'a pas été le Messie à la manière dont ils attendaient qu'il soit le Messie. Mais ça, ce n'est pas vraiment passible de mort. Lorsqu'on n'a pas d'argument, vous savez ce qu'on fait ? Lorsqu'on veut obtenir quelque chose qu'on demande et qu'on n'a pas d'argument, on fout la pression. Et c'est ce qu'ils font à la fin du verset 23, qui nous montre la seule réponse à la question. La réponse à la question « Quel mal a-t-il fait ?» c'est « Crucifie-le ! Qu'il soit crucifié !» Là, vous avez des bonnes techniques de manipulation. À ne pas reproduire trop. C'en est trop pour Pilate. La pression qu'on lui met est... La pression, il l'a subie, là. La pression qu'on lui met est trop forte pour lui. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est trop forte ? On sait, historiquement, que Pilate a déjà commis quelques erreurs auparavant. Il a suscité la colère des Juifs à plusieurs reprises. Et ils se sont plaints auprès de ses supérieurs. Ils ont même envoyé des gens à Rome auprès de l'empereur pour se plaindre de Pilate. Et ça est arrivé 2-3 fois auparavant, parce qu'il a voulu un peu jouer des muscles en disant « c'est moi le chef », et puis il avait bien choqué les Juifs, et du coup il avait fait des choses pas très bien, comme le fait de mettre, bon nous ça nous paraît pas grand-chose, mais il avait mis des étendards impériaux dans la ville alors sainte de Jérusalem, et ça avait été très mal pris par les Juifs de Jérusalem, c'était une des choses qu'il avait fait, et du coup ils avaient envoyé des émissaires, et il s'était plaint lui, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et là, il sait qu'il n'a plus trop le droit à l'erreur. Il ne peut pas se permettre une révolte maintenant. Et en plus, c'est pendant la fête de Pâques. Donc la ville est remplie, il y a plein de monde, c'est bondé. Il ne peut plus rien faire. Il doit leur céder s'il ne veut pas perdre sa place. Et puis, pour un gouverneur romain, perdre sa place, souvent, ça voulait dire être mangé par les lions, en plus. Mais s'il sait que Jésus est innocent, même s'il sait que Jésus est innocent, il va devoir le livrer. Alors, c'est pas pour l'excuser, hein, je veux dire. Il avait d'autres choix à faire, mais même s'il sait que Jésus est innocent, même si son épouse l'a supplié de ne pas se mêler de cette affaire, ben, il fait preuve d'un peu de réel politique. Il fait ce qu'il sait qu'il doit faire pour rester en place, même s'il sait que c'est pas ce qu'il doit faire en toute bonne conscience. Sa femme lui avait dit de pas se mêler de cette affaire, et il s'en est mêlé peut-être un peu trop. Il décide d'arrêter de s'en mêler au moment où les dés sont jetés. Il va laisser les choses suivre leur cours, puisque tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant n'a servi à rien et n'a fait qu'aggraver la situation. Et c'est ce qu'on trouve au verset 24. Pilate, voyant que ça ne servait à rien, mais que l'agitation augmentait encore plus, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je suis innocent du sang de cet homme, c'est votre affaire. » Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise exactement la même expression ici que les chefs des Juifs par rapport à Judas. « C'est votre affaire !» À Judas, c'est ton affaire. Tout le monde veut se rejeter la responsabilité en ce qui concerne la condamnation de Jésus. C'est votre affaire, c'est ton affaire. Il sait que cette condamnation légale est une condamnation injuste. Mais il veut se débarrasser de sa culpabilité, un peu comme d'une patate chaude. Il veut la transmettre aux voisins. Il répond au peuple de la même manière que les chefs des Juifs. C'est votre affaire. C'est pas mon problème, c'est plus mon problème. Et ce que dit le verset 25, c'est que tout le peuple répondit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Et ça, c'est quand même une réponse assez terrible et quelque part un peu prophétique, puisqu'on peut analyser la destruction de la ville de Jérusalem 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, comme une des conséquences à moyen terme de la mort de Jésus et du fait que son sang soit retombé spécifiquement sur le peuple de Jérusalem. Alors notre passage se conclut par ce terrible échange, un échange Barabbas contre Jésus. Verset 26, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Et c'est ce dernier verset qui nous permet de voir le thème de la croix comme substitution pénale, de voir ce thème comme l'enchevêtrement des trois premiers thèmes qu'on a vus, c'est-à-dire la croix comme caractère, donc c'est de voir l'enchevêtrement premièrement du caractère pénal de la crucifixion, deuxièmement du fait que le condamné soit innocent, et troisièmement du caractère volontaire du sacrifice accompli par Jésus. La croix en effet, c'est que Jésus-Christ est crucifié légalement à la place de Barabbas. Et c'est là une superbe illustration de ce qu'est la croix comme substitution pénale. Le principe, c'est le suivant. Un innocent se substitue volontairement à un coupable pour subir la condamnation qui revenait à ce dernier. C'est ce que Jésus a fait pour Barabbas, littéralement, en prenant sa condamnation légale. Condamnation légale de Barabbas, crucifixion. Qui est-ce qui est relâché? Barabbas. Qui est-ce qui prend sa place? Un innocent, Jésus. Et il le fait volontairement. Sauf que la condamnation, et donc, ça c'est la première chose que fait, et la première forme de substitution pénale accomplie par Jésus. C'est ce qu'il a fait littéralement pour Barabbas, mais c'est aussi ce qu'il a fait littéralement pour ceux qui croient en lui, en prenant leur condamnation légale. Sauf que la condamnation légale, qui est la nôtre, n'est pas celle qui est prononcée par un juge terrestre comme Pilate. C'est celle que prononce le juge céleste. Cette condamnation, ce n'est pas juste une crucifixion. C'est la condamnation terrible de la séparation absolue et éternelle d'avec notre Créateur. Et par cela même, c'est aussi notre séparation absolue de toutes les bonnes choses dont il fait don à tous durant cette vie. Séparation totale avec Dieu, séparation de toutes les bonnes choses dont on peut jouir et qui viennent de Dieu. C'est ça notre condamnation pénale, notre condamnation légale. C'est ça la condamnation qui nous revient. Johan me demandait tout à l'heure si j'allais parler sur le thème est-ce que Dieu déteste le péché et dit que c'est pas bien? La version légale, c'est de dire que Dieu condamne les pécheurs en tant que juge céleste. Et que fait Jésus-Christ? Il accepte d'être condamné par un juge terrestre pour que nous ne soyons pas condamnés par le juge céleste devant lequel nous devrons tous comparaître. Il accepte d'être condamné par un juge terrestre pour que nous ne soyons pas condamnés par le juge céleste. Mais il le fait alors qu'il est innocent. Et c'est parce qu'il est innocent qu'il peut se substituer pénalement à nous. Parce qu'un homme qui serait lui-même coupable pour ses propres péchés, devant Dieu, ne pourrait pas prendre la place d'un autre. Il fallait donc qu'il soit innocent, et ça c'est le deuxième point qu'on a vu. Et non seulement cela, mais encore, il fallait qu'il donne sa vie de lui-même, qu'il se sacrifie volontairement, et que ce ne soit pas par hasard qu'il se retrouve là sur la croix, sans l'avoir voulu. Non, il subit l'injustice volontairement, il accepte pas à pas, il accepte d'entrer dans l'engrenage, et toutes les fois où il peut en sortir, il décide d'y rester. Mais en se taisant, Jésus a manifesté que c'est volontairement qu'il se sacrifiait à notre place, innocemment, volontairement, pour nous. C'est ainsi que la croix, comme condamnation pénale, comme condamnation d'un innocent et comme sacrifice volontaire, donne lieu à une compréhension plus globale de la croix comme substitution pénale. Alors, j'ai terminé pour cette première intervention. Je vous propose juste de conclure avec la réponse d'un vieux catéchisme protestant que j'aime, le catéchisme de Heidelberg, qui date du XVIe siècle. Et la question est la suivante. Pourquoi a-t-il souffert sous le juge Ponce Pilate? Réponse. Afin que lui, innocent, fût condamné par un juge terrestre et nous délivra par cela du jugement sévère de Dieu qui devait venir sur nous. Pourquoi a-t-il souffert sous le juge Ponce Pilate? Afin que lui, innocent, fût condamné par un juge terrestre et nous délivra par cela du jugement sévère de Dieu qui devait venir sur nous. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions continuer à proclamer. Il a souffert sous Ponce Pilate. Que Dieu nous donne toujours de confesser dans notre monde cette vérité qui nous provient de cette période qui fut à la fois la pire et la meilleure des époques. Amen.